toujours à l'écoute de RESF sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net, pour nous suivre en streaming partout dans le monde. Et on vient d'écouter un extrait d'un morceau qui s'appelle Le Lion. C'était Jean-Philippe Riquel au piano et Lansina Kouaté au balafon. Et c'est donc extrait d'un album qui s'appelle Kangaba Paris, album que je recommande. Et donc, Laure, tu étais venu donc pour nous parler de ce rapport indispensable sur qui parle des deux dernières années de la frontière. Enfin, on va reprendre le titre qui sera beaucoup mieux. Donc, conséquences des politiques sécuritaires et migratoires à la frontière franco-italienne, rapport d'observation 2017-2018.
Oui, exact.
Avant, tu peux peut-être nous présenter un petit peu ce qu'elle en a fait.
Bien sûr. Donc, je vais vous parler du rapport Persona non grata qui est sorti la semaine dernière. Mais avant, je vais rappeler un petit peu ce que c'est que l'ANAFE et contextualiser surtout pourquoi l'ANAFE à la frontière franco-italienne et pourquoi ce rapport. Donc l'ANAFE, c'est l'Association Nationale d'Assistance aux Frontières pour les Étrangers. On a été créé en 1989 de la rencontre de syndicats de professionnels du transport, notamment du transport aérien et notamment à Roissy, et d'associations de défense des droits humains qui se sont rencontrés parce que les professionnels du transport constataient des pratiques de privation de liberté sans cadre et en tout cas dans des conditions indignes à l'aéroport de Roissy principalement, et avaient du coup contacté les associations pour dénoncer ces pratiques. Ensemble, elles ont créé un collectif qui ensuite s'est structuré en association, qui est l'ANAFE. Et depuis 30 ans, du coup, on travaille sur les questions de frontières, la question de la privation de liberté aux frontières dans les ports, les aéroports et les gares internationales, qui s'appellent des zones d'attente, où les personnes, lorsqu'elles essayent de rentrer sur le territoire français, vont être bloquées pour différentes raisons, soit parce qu'elles n'ont pas les conditions pour rentrer sur le territoire, soit parce qu'elles demandent de l'asile. Et du coup, il y a des procédures particulières aux frontières, et du coup, avec des droits spécifiques. Et du coup, nous, on intervient dans ces zones-là pour informer les personnes de leurs droits, les accompagner le cas échéant, mais surtout faire de l'observation des pratiques de la police aux frontières et ensuite dénoncer les violations des droits constatées. Depuis 2011, l'ANAFE a travaillé régulièrement sur la question de la frontière franco-italienne, notamment dans le cadre, en 2011, d'un premier établissement des contrôles aux frontières internes, qui fait suite du coup aux révolutions arabes et au fait que l'Italie avait délivré des titres humanitaires pour un bon nombre de ressortissants tunisiens pour leur permettre de voyager au sein de l'Europe. Et du coup, la France avait rétabli les contrôles à cette frontière à ce moment-là, ce qui était la première fois pour la France. Donc du coup, jusqu'alors, la question des frontières internes et du rétablissement des frontières internes depuis la création de l'espace Schengen ne s'était pas vraiment posée. Ce rétablissement avait été de courte durée, mais déjà l'ANAFE et le GISTI, nous avions dénoncé ces pratiques de l'administration. En 2015, grâce au travail des militants locaux de l'ANAFE et d'autres associations, on a été informés de pratiques discriminatoires, notamment dans le cadre de contrôles. Et ça, c'était dès juin 2015, et c'est assez important de le rappeler, parce que dès juin 2015, il y avait eu des pratiques de contrôles discriminatoires en gare, notamment de Nice et de Menton. Et à partir de novembre 2015, dans le cadre de l'instauration de l'état d'urgence et du rétablissement des contrôles aux frontières internes, il y a eu des pratiques qui se sont, des pratiques illégales qui se sont perpétrées depuis lors à la frontière franco-italienne et qui se sont répandues sur toute la longueur de la frontière. Parce que d'abord, c'était surtout sur la partie Menton-Vintimille, puis après dans la vallée de la Roya, puis après dans le Briançonnais, et maintenant on voit aussi que c'est un petit peu la même chose qui commence à se passer, enfin qui se passe depuis plusieurs mois à la frontière franco-espagnole. Du coup, l'ANAFE a réalisé des missions en 2015, puis après en 2017, pour observer un petit peu ces pratiques. Notre apport, parce qu'il y a beaucoup de militants de terrain du coup qui dénoncent depuis longtemps ces pratiques, c'est que nous, on a la connaissance de la procédure applicable aux frontières externes, et depuis 2015, depuis juillet 2015, c'est la même procédure qui est appliquée à la frontière franco-italienne. C'est ce qu'on appelle la procédure de refus d'entrée sur le territoire. Et du coup, ce qu'on a pu constater, c'est que à cette procédure, il y a des droits qui sont afférents et qui ne sont absolument pas respectés à la frontière franco-italienne. Donc nous, notre expérience de 30 ans d'expérience aux frontières externes nous a servi et nous sert encore pour travailler de manière collective à cette frontière. À partir de 2017, en fait, on a décidé de renforcer notre présence à la frontière avec une salariée spécialement dédiée qui est présente là-bas depuis lors. Et du coup, on a beaucoup travaillé en interassociatif pour récolter des observations, des témoignages. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le rapport Persona non grata, qui vient en fait compiler les dénonciations, les violations des droits constatées depuis 3 ans par les associations, mais aussi par les autorités administratives indépendantes comme le Défenseur des droits, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, la Commission nationale consultative pour les droits de l'homme, qui tous les trois se sont rendus à un moment ou à un autre à cette frontière et ont constaté des violations des droits et les ont dénoncées. C'est également ce que l'on fait dans ce rapport-là, en s'appuyant sur toutes les observations et témoignages collectés. Mais à cela s'ajoute une analyse juridique et politique en fait du contexte et des pratiques. C'est aussi ce rapport, c'est aussi une manière pour nous de rendre aussi la voix aux personnes exilées, parce qu'on y a mis pas mal de témoignages, et c'est aussi montrer en fait la réalité pour eux de la violence qu'est la frontière franco-italienne à l'heure actuelle pour les personnes exilées. Et enfin, c'est vraiment une manière aussi de mettre en avant le travail qui est collectif à cette frontière, le travail interassociatif, et aussi permettre, du coup, on l'espère, que ce rapport soit un outil pour toutes les personnes qui souhaitent mobiliser sur les questions de violation des droits à la frontière franco-italienne, pour justement diffuser l'information et s'en servir pour dénoncer les pratiques. Donc, sur quel est le rapport, il est assez conséquent, mais il se structure en 3 parties. Je vais revenir rapidement sur les 3 parties. La première, c'est sur la question de la militarisation de la frontière. La seconde, c'est sur la question de la violation des droits et des procédures. Et la quatrième, c'est une partie qui est relative à qui questionne en fait la solidarité à cette frontière. Parce que du coup, il a été important aussi pour nous à l'ANAFE de mettre un peu en avant la question des militants et du délit de solidarité. Parce que bah, du coup, c'est un travail aussi c'est un point d'attention de l'ANAFE. Et notamment, mais pas uniquement, parce qu'aussi on a des membres qui sont poursuivis pour ce délit, sur le fondement de ce délit. Du coup, la première partie, en fait, c'est une contextualisation de cette frontière, à la fois une contextualisation historique, mais aussi géographique, pour recadrer un petit peu, pour comprendre en fait quel est le contexte de cette frontière et comment elle a bougé en fait au fur et à mesure des siècles. Ça met aussi en perspective le fait qu'une frontière, en fait, c'est mouvant. Et en fait, c'est à un moment donné, il n'y en a pas. Et puis maintenant, il y en a une. La question du rétablissement des contrôles aux frontières, du coup. C'est questionner un petit peu le contexte, en fait, dans lequel interviennent les violations qu'on voit dans un second temps.
Ça, c'est, pardonne-moi de te couper, mais c'est quelque chose dans l'introduction que moi j'ai trouvé particulièrement intéressant, même si c'est très court, c'est que la frontière entre la France et l'Italie, elle bouge. elle a toujours bougé depuis que l'Italie existe, ça fait pas très longtemps d'ailleurs, en tant qu'Italie. Donc c'est, on n'a pas besoin de se déplacer pour passer d'un pays à l'autre, hein. C'est la frontière qui se déplace. La frontière a toujours été mouvante depuis jusqu'en 1975. Et il y a encore quelques points de la frontière. Alors là, il n'y a pas beaucoup de bandes, notamment le sommet du Mont Blanc, qui sont toujours pas fixés. Mais donc les gens, par exemple, les gens de Clavière ont été français, ont été italiens.
Oui. C'est aussi un peu l'idée, c'est de recontextualiser un petit peu tout ça pour justement comprendre en fait que la question de la frontière, elle bouge et à un moment donné, on peut être... côté français, côté italien, et même sur la géographie, quand on voit le tracé dans la vallée de la Roya, où en fait on va passer à un moment donné en France, en Italie, ça serpente un petit peu dans la vallée, et en fait ça crée des enclaves, et avec toutes les questions que ça pose en termes d'accès au territoire, notamment dans le cadre du rétablissement des contrôles aux frontières internes. Le point en fait qui est un petit peu le point d'orgue en fait, c'est vraiment la question du rétablissement des contrôles aux frontières et le durcissement des politiques mais migratoires mais aussi sécuritaires depuis 2015 par la France, avec la réintroduction des contrôles, la multiplication des contrôles, qui vont être bien souvent aux faciès et la multiplication des lois qui vont redéfinir la frontière qui, à l'origine, ou dans notre conscience peut-être collective, la frontière va nous apparaître plutôt comme une ligne, un trait, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Et en fait, au fur et à mesure, et on le voit notamment avec la loi sur la sécurité intérieure de 2017 et la dernière réforme du CESEDA de septembre 2018, où du coup, on passe à des bandes de 10 km. Il y avait déjà la question des 20 km à la frontière, mais là, il y a encore une autre question qui est celle des 10 km, où du coup, il y a un flou entre... On est dans une zone frontalière, du coup, quelle est la procédure que l'on va appliquer ? Si la personne, elle est considérée comme étant sur le territoire ou pas, du coup, c'est pas la même procédure qui va s'appliquer. Du coup, c'est un petit peu tout ça qu'on questionne et qui est mis aussi en perspective parce que la frontière franco-italienne, ce qu'on voit, et c'est pas le seul lieu où on voit ça, on en avait déjà parlé sur Mayotte, mais la question de la militarisation de la frontière, c'est aussi un élément extrêmement important à cette frontière, parce que on a pu constater depuis 3 ans un dispositif humain extraordinaire, enfin extrêmement conséquent, avec une variété de forces de l'ordre sur toute la longueur de la frontière, mais aussi le matériel qui est utilisé, qui est un matériel quasi militaire en fait, où on voit qu'il y a des tanks, des chiens qui d'ailleurs parfois, il nous a été raconté que les chiens étaient lâchés sur les personnes dans la montagne, des drones, des hélicoptères, des détecteurs d'infrarouges, des détecteurs de mouvement. Et tout ça, ça fait que bien qu'il n'y ait pas un mur, au sens où on l'entend à la Trump, un mur physique, en fait, il y a un mur, une barrière militaire qu'il est extrêmement difficile de franchir et qui fait qu'en fait, les personnes vont se mettre de plus en plus en danger pour pouvoir traverser la frontière, parce que de toute manière, ça fait partie de l'histoire, hein, les migrations, elles vont continuer leur chemin et du coup elles vont se mettre de plus en plus en danger et elles vont se blesser. Il y en a certaines qui sont décédées. Il y a un monsieur qui est décédé il y a quelques semaines dans le Briançonnais.
On en avait parlé.
Oh, ouais.
Alors, il y a quand même, quand tu parles de cet arsenal, il est en même temps, c'est un filtre extraordinaire parce qu'on peut très bien aller jouer au golf ou faire du ski sans se rendre compte qu'on passe la frontière.
Bien
et
sûr.
Tout cet arsenal, il va quand même, il est destiné à empêcher des gens en général très jeunes, voire des enfants, qui sont par moins 18 ou moins 20 en basket avec juste une petite veste dans la neige.
Oui. C'est assez révélateur à l'heure actuelle, notamment dans le Briançonnais, parce qu'il y a effectivement la période des vacances et la question du ski, des sports d'hiver. Et en fait, la station Montgenèvre-Clavière, hein, c'est une station du coup française et italienne. Et en fait, du coup, les skieurs passent d'une piste à l'autre, côté français, côté italien, sans aucun problème. Et en fait, c'est cette même frontière qui, le soir, des personnes sont pourchassées et sont mises en danger, en fait. Donc voilà, c'est vraiment un élément sur lequel il est vraiment important de revenir, parce qu'en fait, même si on le sait, en fait, l'arsenal et les armes aussi qui sont utilisées, parce qu'il y en a, sont assez révélatrices, en fait, de la sécurisation. Mais la question de la sécurisation, elle est souvent liée à elle est justifiée pour la lutte contre le terrorisme, mais en pratique, à la frontière franco-italienne, on voit bien que c'est pas la lutte contre le terrorisme qui est mise en avant, c'est vraiment la lutte contre ce qui est appelé l'immigration dite irrégulière. Alors, au-delà de la question de la militarisation et du rétablissement des contrôles aux frontières, c'est en fait ce qui découle du rétablissement des contrôles aux frontières, ce sont les procédures qui vont être mises en œuvre à l'encontre des personnes exilées quand elles sont arrêtées à la frontière, que ce soit à la frontière, ce que nous on appelle la frontière basse, c'est-à-dire de Menton ou la vallée d'Arroya, ou à la frontière haute dans le Briançonnais. C'est la procédure de refus d'entrée. Et en fait, on constate que le long de la procédure, il y a des violations des droits qui sont extrêmement graves. Je parlais un petit peu tout à l'heure des contrôles aux faciès. Alors déjà, on commence par la question des contrôles. Et ensuite, donc, où on a une multitude de types de contrôles qui sont pas respectueux des procédures, des personnes qui font les contrôles mais qui n'ont pas la compétence, des personnes qui font des procédures administratives mais qui les signent ou qui les rédigent et qui n'ont pas la compétence pour le faire. Une fois que les personnes elles ont un refus d'entrée, en fait, normalement, elles ont des droits. Je vais simplement les citer, mais déjà, normalement, pour faire une procédure administrative, la personne doit avoir sa situation examinée de manière individuelle, ce qui n'est absolument pas le cas, parce qu'il arrive que les procédures se fassent sur le capot d'une voiture en moins de 3 minutes ou sur le parvis d'une gare. Mais une fois que la procédure est faite, et au cours de la procédure, les personnes elles doivent pouvoir avoir l'information de la procédure qui est mise en œuvre à leur encontre. Et donc pour ça, il faut que les personnes puissent comprendre, c'est-à-dire que les personnes aient un interprète, ce qui n'est absolument pas le cas à la frontière. Il n'y a aucun interprète, physique ou téléphone, hein, peu importe. Donc ça pose une question en fait en termes de notification de la procédure. Mais les personnes n'ont pas accès à avoir un médecin. On a beaucoup de témoignages de personnes qui vont arriver, qui vont être blessées, qui vont demander à avoir un médecin. Et ce qu'il leur est répondu, c'est « Bah non, en fait, vous n'avez pas le droit d'être en France, du coup, elles vont être refoulées en Italie. » Les personnes, quand elles font l'objet d'un refus d'entrée, elles vont avoir le droit de voir un conseil, notamment un avocat. Ce droit, en pratique, il n'est pas mis en œuvre. Il y avait la question de ce qu'on appelle le droit au jour franc. C'est quelque chose qui est très courant en zone d'attente, c'est-à-dire si la personne, elle le souhaite, elle peut elle peut demander à ne pas repartir tout de suite. En zone d'attente, le jour franc, il est automatique pour les mineurs. Et en fait, pendant 3 ans, la police aux frontières, et les forces de l'ordre à la frontière franco-italienne ne respectaient pas le droit au jour franc, ni pour les mineurs, ni pour les majeurs à la frontière, et les personnes étaient refoulées directement. Et en fait, ce qui est très grave, c'est que le législateur, avec la loi du 10 septembre 2018, est venu valider des pratiques qui sont illégales. C'est-à-dire que depuis, le jour franc n'est plus applicable aux frontières terrestres. Mmh. Donc ce qui pose vraiment la question pour les mineurs, parce que normalement la question du jour franc pour les mineurs, c'est une question de... Enfin, ça a été établi, donc du coup ça pose vraiment une question juridique là-dessus. Mais au-delà de ça, et c'est là où c'est extrêmement grave, c'est qu'en fait le législateur il est venu valider des pratiques illégales en fait pendant 3 ans. Et en fait, quand on fait le calcul, il y a eu à peu près un petit peu moins de 80 000 refus d'entrée en 3 ans à la frontière franco-italienne ou aux frontières terrestres.
80 000.
Ouais, aux frontières terrestres. Et en fait, du coup, ça veut dire autant de non-respect du jour franc jusqu'au 10 septembre 2018. Il y a eu à peu près 80 000. Donc en fait, 80 000 violations, ne serait-ce que de ce droit-là. Et enfin, c'est la question de la négation du droit de recours devant les juridictions administratives, parce que du coup, les personnes ne sont pas mises en mesure. On en parlait un petit peu, on en parlait tout à l'heure, hein, Gwen, c'est ce dont Gwen parlait. Mmh. Et en fait, à la frontière, les personnes, elles ne sont pas mises en mesure de contester leurs décisions, parce que soit leurs décisions ne leur sont pas remises, soit quand elles leur sont remises, les autorités italiennes les récupèrent. Et donc, du coup, il est extrêmement difficile, voire impossible, de contester un refus d'entrée si on n'a pas la décision administrative.
Et quand on est en situation de le contester, ça marche. La contestation, la préfecture est condamnée.
Il y a eu pas mal de condamnations, notamment en février, sur la question des mineurs et aussi sur des questions de demandeurs d'asile, où le tribunal administratif de Nice a sanctionné l'administration pour non-respect des droits des mineurs et ou des droits des personnes qui souhaitaient la protection au titre de l'asile. Parce que du coup, il y a aussi ces deux questions. C'est le fait que les personnes à la frontière terrestre ne sont pas mises en mesure de demander l'asile. À chaque fois qu'elles l'ont essayé, il leur a été refusé d'enregistrer leur demande d'asile, ce qui est extrêmement grave. C'est pas parce qu'on est au sein de l'espace Schengen que l'asile ne doit pas être respecté. Et il n'appartient pas, même si la personne va faire l'objet d'une procédure Dublin après, il n'appartient pas à la police aux frontières de décider si c'est le cas ou pas. La police aux frontières, son travail, c'est d'enregistrer la demande d'asile. Et après, c'est l'OFPRA et le ministère de l'Intérieur ou l'OFPRA qui va décider si la personne peut être admise au titre de l'asile.
On a même vu des situations où la police aux frontières disait, donc les pieds dans la neige au-dessus de Briançon, en Col de l'Échelle, mais il n'y a pas d'endroit pour demander l'asile ici, donc ce n'est pas un vrai demandeur d'asile.
C'est ça. Ce qui est faux, c'est pas parce qu'il n'y a pas une PADA quelque part qu'on ne peut pas demander l'asile, en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
On passe la frontière, normalement on demande la protection, on est aidé par les autorités pour aller jusqu'à la PADA pour pouvoir déposer cette demande d'asile. Ensuite, que la demande d'asile soit acceptée ou refusée, c'est notre paire de manches. Mais on devrait être, la protection devrait s'exercer à partir du moment où on atteint la frontière.
Oui, tout à fait. Exact. Après, du coup, dans les cas des violations, en fait, c'est ce qu'on a pu observer. C'est aussi ce qui nous a mené à l'ANAFE à travailler sur la frontière franco-italienne dès le départ. C'est la question de la privation de liberté, notamment à Menton-Pont-Saint-Louis. Il y a des privations de liberté illégales depuis 2 ans dans des conditions qui sont inhumaines, où les personnes ne peuvent pas s'asseoir, il n'y a pas de banc, elles n'ont même pas accès à l'eau. Parfois, il leur est donné une madeleine, mais ça dépend du bon vouloir de l'officier de police qui est présent. Peu importe qu'elles restent 4 heures ou toute une nuit, elles n'ont pas accès. Le médecin, les hommes et les femmes ne sont pas séparés, enfin pas toujours séparés, les mineurs et les adultes non plus. Vraiment, les conditions, et ça, c'est pas. Enfin, nous, on n'a pas l'accès dans ces lieux-là. C'est aussi une des revendications de l'ANAFE, c'est que les associations puissent rentrer dans ces lieux privatifs de liberté, peu importe le cadre ou l'absence de cadre qui leur est donné. Mais ça ressort aussi des constats du CGLPL qui a pu y aller.
Et comment on peut justifier le fait que vous n'ayez pas accès ?
Il n'y a pas de justification. En fait, c'est que il y a des cadres dans lesquels, dans les centres de rétention, il y a des associations qui peuvent rentrer, dans les zones d'attente, il y a des associations qui peuvent rentrer. Et vu que là, l'administration considère qu'il ne s'agit ni de l'un ni de l'autre, on n'a pas aucune association n'est habilitée à rentrer. Après, ça fait partie d'une des choses que nous on demande, c'est qu'en fait, le droit de regard en fait, de la société civile est fondamental dans les lieux privatifs de liberté, parce que c'est aussi ça qui est garant d'une société démocratique, en fait. Le dernier point en termes de violation des droits, c'est la question du refoulement, parce que du coup, on a vu, que ce soit à la frontière haute ou à la frontière basse, des violations des refoulements de demandeurs d'asile, de mineurs, alors que c'est pas comme ça que ça devrait être. Donc des pratiques qui ont évolué depuis 2 ans en fonction aussi notamment des dénonciations des associations et des autorités administratives indépendantes. La dernière partie du rapport, elle traite principalement du coup de la question de la solidarité, où du coup on met, il y a d'abord la question, enfin la solidarité qui est d'abord mise à mal, que ce soit à l'encontre des personnes exilées, avec la question des groupuscules d'extrême droite qui viennent bloquer les personnes, qui les mettent en danger, qui participent de leur mise en danger, mais la question aussi des violences de ces personnes-là, morales, physiques. Mais aussi de l'administration, des violences policières, qui enfin en tout cas beaucoup de témoignages sur ce fait. La question aussi de la délation, des personnes qui vont appeler la police parce qu'ils ont vu des personnes qui sont supposées être migrantes, hein, ça aussi c'est un autre débat, je pense. Et
c'est pas tant un autre débat que ça. Hein.
Non, mais on pourra en débattre pendant longtemps. Oui. De l'appréciation de ce qu'est une personne migrante par les groupes d'extrême droite, les personnes de la société civile qui dénoncent les gens, les personnes exilées, eux ou les personnes qui leur viennent en aide, c'est une vraie question en fait qui du coup c'est quelque chose dont on traite en fait, où on se pose justement cette question dans le rapport. Mais on aborde aussi la question de la solidarité qui est mise à mal à l'égard des personnes solidaires, parce que la plupart des gens étaient assez contents de la décision du Conseil constitutionnel de juillet 2018, où le Conseil a consacré le principe de fraternité, mais dans le même temps, et c'est là où c'est très dangereux, c'est que le Conseil constitutionnel, s'il a consacré ce principe, il a surtout renforcé la question de l'entrée et de l'aide à l'entrée sur le territoire, en précisant qu'il fallait mettre l'accent plus sur l'aide à l'entrée, et que l'aide à l'entrée c'était quelque chose de grave. Et d'ailleurs on a pu le voir après, depuis juillet il y a eu plus de poursuites, enfin plus de pression, plus d'auditions, plus de garde à vue, plus de poursuites, plus de condamnations et des condamnations plus lourdes. Que ce soit à la frontière basse ou à la frontière haute. Mais après, parce que quand même, il y a quand même des belles synchronicités qui se sont créées à la frontière franco-italienne depuis, on aborde la question de la résistance des militants locaux, des militants nationaux, mais aussi avec le concours de certains journalistes qui viennent faire des reportages, de parlementaires qui se saisissent de la question et qui dénoncent. Il y a eu d'ailleurs des parlementaires qui ont fait un signalement auprès du parquet suite à des agissements, une situation par rapport à des mineurs, et du coup le parquet de Nice a décidé il y a quelques semaines d'ouvrir une enquête pour faux à l'encontre de la police aux frontières. Et aussi les autorités administratives indépendantes qui viennent du coup renforcer toutes nos analyses et toute l'analyse collective interassociative.
Voilà, et ça c'est un côté aussi qui est très intéressant, qu'on revoit depuis longtemps. Et il y a une chose qui est rigolote, si je peux dire, quand on parle de la frontière, quand les identitaires étaient venus à Briançon, ils s'étaient trompés de frontière, enfin ils s'étaient trompés d'époque, parce qu'ils s'étaient mis, je crois, sur la frontière, ils avaient mis leur barrière sur la frontière de 45 ou de 47, et elle n'était plus là du tout, la frontière. Donc bon, chacun peut se tromper d'époque. Là aussi, ces histoires de résistance à la frontière, c'est des choses qui sont très anciennes, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et quand on voit, donc ça on a beaucoup parlé ces dernières émissions, donc des procès à Gap du Briançonnais, on avait beaucoup parlé du procès de Martine Landry, qui a participé, je crois.
Oui, c'est ça, ça aborde toutes ces questions, mais aussi l'objectif, c'est de mettre aussi en valeur le travail collectif, en fait, et montrer que la solidarité, elle se tarit pas, et même malgré les pressions, malgré les menaces et les poursuites judiciaires, il y a de plus en plus de personnes qui se mobilisent par élan d'humanité, parce que qui sont en désaccord en fait avec ce genre de pratiques et de politique en fait.
Ouais, et puis on voit des gens qui se mobilisent. Tout simplement, ils n'ont pas l'idée qu'ils se mobilisent. Ils réagissent, ils voient quelqu'un par moins 10 degrés ou moins 20 degrés qui fait du stop sur la route. On se pose pas la question, on prend la personne en stop. Et on n'imagine pas un instant qu'on est en train qu'on peut commettre un délit en le faisant. Alors, je vois que l'heure tourne très très vite et peut-être on va passer aux recommandations.
Oui, à la fin du rapport, l'ANFL a pour habitude de faire des recommandations à l'attention des autorités. Et il y en a 12. Il y en a 3 qui peut-être font écho un petit peu à ce que je viens de dire. Le premier, c'est qu'on demande que les personnes, que les procédures et les droits soient respectés, c'est-à-dire que l'administration respecte les droits des personnes lorsqu'elles font l'objet de refus d'entrée, que même la procédure en elle-même soit respectée, hein, que leur situation soit étudiée de manière individuelle et qu'elles aient accès pleinement à tous les droits qui vont avec. La deuxième, c'est que l'on demande que les personnes ne soient plus privées de liberté de manière irrégulière et aussi dans des conditions indignes. Et la troisième, qui a trait plus à la question de la solidarité, c'est que qu'il soit réellement, et ça c'est une demande que l'on fait aux législateurs, parce que même s'il n'y a pas de cadre, de perspective législative à courte échelle actuellement, il n'empêche qu'on demande malgré tout qu'il soit mis fin au délit de solidarité, et ça il appartient aux parlementaires de le mettre en œuvre s'ils considèrent que c'est pertinent, mais à notre sens, ça fait partie de la base que les défenseurs des droits humains ne soient pas inquiétés pour leurs actions de défense. Des personnes. Ouais,
l'important, c'est déjà été fait dans le passé d'inquiéter les défenseurs des droits humains. Donc, c'est tout simplement maintenant, je vois que l'heure tourne très vite. Donc, c'est un rapport que je recommande absolument la lecture. Il n'est pas ennuyeux. Il n'est pas du tout ennuyeux. Et il y a quantité de tout ce que tu nous dis là. Je veux dire, à chaque fois, il y a les documents. Il y a une photo ou une image de tel refus d'entrée avec point par point. Et ce sont des choses qui sont incontestables.
Bah, ce sont des documents qui ont été... que les personnes se sont vues notifier, oui, effectivement.
Voilà. Et donc c'est à lire, il est téléchargeable sur le site de l'ANAFE. Est-ce qu'on peut l'acheter ou se le procurer quelque part en version papier?
Alors, on peut le demander à l'ANAFE, c'est un titre gratuit. Après, les rapports de l'ANAFE, on ne les vend pas. Mais voilà, on peut le demander.
Voilà. Et puis, on avait prévu une petite pause musicale maintenant, mais on ne la fera pas, ce n'est pas grave. C'est, de toute façon, c'était... On aurait pu rajouter une demi-heure à cette émission et ça aurait été pas plus mal pour continuer à parler de ce rapport. Et donc je rappelle qu'on pourra le retrouver très bientôt sur donc le site resf.info /radio, et là donc à la rubrique reportage et autres sons, et je suppose qu'il y aura aussi le lien sur le site de l'ANAFE. Oui.